Ah, il faut vous mettre plus haut parce que là, pour nous, c'est la première rachat de la nouvelle saison. Ça va très très vite au début de Bereshit. On a eu Bereshit et Noah. Ils nous ont amenés jusqu'au déluge. Ensuite, Lech Lecha nous a parlé de les suites de la tour de Babel et le choix d'Abraham Avinu. Bon, c'est Abraham Avinu, c'est exactement au moment de la tour de Babel. La tour de Babel, les différents peuples se sont disqualifiés. Et donc, d'une certaine manière, le plan divin a échoué. Et Abraham Avinu, il propose, ben, moi je prends sur moi ce qui initialement avait été demandé à Adam. Adam ne l'ayant pas fait, c'est devenu la tâche de l'humanité tout entière. L'humanité en tant qu'humanité tout entière, elle se disqualifie en faisant la tour de Babel. Et donc c'est fichu, ça n'a pas marché. Hachem, qui a déjà quasiment détruit le monde avec le Maboul, ben c'est un nouvel échec, quelque part. Seulement Hachem a déjà dit qu'il n'allait plus détruire complètement le monde. On ne voit pas très bien ce qu'il pourrait faire. Mais en fait, on a l'impression qu'Avraham Avinu a sauvé la mise, si on peut parler comme ça, dans la mesure où Avraham, il dit, ben, moi, je prends ça sur moi. Hachem a testé, est-ce qu'il est fiable? Qui c'est ce bonhomme-là que personne ne connaît? On sait, d'accord, il est l'ennemi du grand patron de la tour de Babel. Le grand patron de la tour de Babel, c'est Nimrod. Et Nimrod, Abraham, c'est le bonhomme qui résiste à Nimrod. Et il résiste tellement que Nimrod le jette dans une fournaise. Donc ça veut dire, voilà, Abraham, il va mourir de sa belle mort parce qu'il a résisté à Nimrod. Et Hachem le sauve. Mais vous voyez, Nimrod, il n'est pas vraiment impressionné. On jette un bonhomme dans une fournaise et il s'en sort. Nimrod, il devrait se dire, bah alors quand même, ce type-là, c'est pas n'importe qui, non? Pas du tout. Nimrod, il continue son petit bonhomme de chemin, sans du tout être impressionné par les théories d'Abraham. L'humanité, ils n'en ont rien à faire des théories d'Abraham. Mais Abraham, il commence quelque chose. Et Hachem dit à Abraham, il lui dit, bah, tu coupes avec tout ce que tu connais, quoi. Tu coupes complètement. Tu coupes avec ta famille, tu coupes avec ton pays, tu coupes complètement. Et tu vas, je te dis pas où tu vas, je te dirai. C'est-à-dire, Abraham, il accepte de partir ailleurs. Sans que Hachem lui ait dit où il irait, etc. Mais Hachem lui fait des promesses. Tout va se passer très bien, etc. Il fait des promesses, en particulier, il va lui faire une promesse de lui donner une terre. Et il fait une promesse de ce qu'il va devenir un grand peuple. C'est-à-dire, cette personne-là, ce personnage, Abraham, a priori stérile, marié à une femme stérile, Hachem leur propose de devenir un très grand peuple. Il leur propose aussi de leur donner une terre. Les peuples, ils ont une terre. Tous les peuples ont une terre. Il y a des peuples qui ont attaqué des autres peuples, ils leur ont pris leur terre, mais tous au départ avaient une terre. Le clan d'Israël, les descendants d'Abraham, ils n'ont pas de terre. Il n'y a pas de terre. Le monde est peuplé, tout le monde a sa terre, tout le monde, tout est en place. Il y a un peuple, enfin, qui n'est même pas encore un peuple, mais ceux qui vont devenir un peuple, même quand ils seront un peuple, ben, a priori, ils n'ont pas de terre. Et la terre qu'ils vont avoir, ils vont devoir en chasser les habitants. Les chasser ou éventuellement les massacrer. Le clan d'Israël, il commence de cette manière-là, quoi, avec une promesse de devenir, enfin, d'avoir une terre, mais qui pour l'instant est occupée par d'autres. Alors, les Chachamim disent que Abraham, ça va être dit aussi sur Yitzhak et Yaakov, qu'ils ont accompli la Torah avant qu'elle soit donnée. Ont accompli la Torah sans qu'elle soit donnée. Ça veut dire ils avaient en eux la Torah, il fallait la faire monter en quelque sorte de soi-même, la comprendre de soi-même. Mais ces gens-là, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est des êtres humains, hein. C'est pas des robots, c'est pas des martiens, etc. C'est des humains. Et si eux, ils ont en eux la Torah, tout le monde a la Torah en soi. Seulement, eux, ils sont capables de la faire monter à leur cerveau, si vous voulez, et de décider de vivre selon ce que cette Torah leur prescrit. Il faut juste l'entendre de cette manière. La Torah, c'est le plan du monde. Hachem a créé le monde. Il a regardé dans la Torah comment le créer. Cette Torah, c'est lui-même qui l'avait créée, qui l'a écrite. Enfin, il l'a fabriquée avant, bien avant. Il a créé quelque chose qui s'appelle la Torah, qui était bien sûr pas sous forme d'un rouleau, etc. C'était des principes, un principe, l'énergie du monde, si vous voulez aussi. Et c'est d'après ça qu'Hachem a créé le monde. Donc, si vous voulez, la Torah n'est pas une loi parfaite qui colle parfaitement au peuple juif. La Torah, c'est la loi intérieure de ces humains-là. C'est-à-dire que pour Abraham, Yitzhak et Yaakov, les principes de la Torah sont en eux et ils vont s'imposer à eux exactement comme s'impose à nous le fait de devoir respirer, de devoir manger, de toutes nos obligations qui sont liées à notre condition. Et en même temps, il y a toutes les lois de la Torah qui sont là. Il y a une loi qu'Abraham ne pratique pas au départ. Et la loi en question, c'est la Mila. Il ne fait pas de circoncision. Plus exactement, sur ce point de la circoncision, il va s'interroger, il va interroger ses amis, dont un certain Mamré. Il va lui dire, oh, c'est bien de la faire. Une des raisons pour lesquelles Abraham ne fait pas la Mila, il se demande s'il faut la faire vraiment, C'est qu'il, lui, il a l'intention de faire rayonner, de donner un enseignement au monde, d'amener le plus possible de gens à reconnaître Hachem comme le roi du monde. Et il se dit que si on leur impose, on impose aux hommes de faire la circoncision, ben, quelque part, ça risque d'être difficile. Et il y a des gens qui ne feront pas le pas de reconnaître Hachem, etc., parce que ils n'ont pas envie de faire la circoncision. Donc, si vous voulez, ce serait éventuellement contre-productif par rapport à la volonté d'Avraham Avinu de faire rayonner la Torah. Et finalement, il va faire la Mila. Et il fait la Mila chez un de ses amis, s'appelle Mamré. Nous parle ici des Chênaies de Mamré. C'est là-bas, dans une propriété. Dans cette propriété-là, Avram s'installe et c'est là-bas qu'il fait la Mila. Quand on dit il fait la Mila, il fait la Mila, mais il fait la Mila de toute sa maisonnée. Il a beaucoup de gens autour de lui. Il a au moins les fameux 318 qu'on connaît, dont on va parler plus tard. Si vous imaginez qu'il a fait 318 milotes plus la sienne et celle d'Ishmaël, et c'est marqué Be'etsem Hayom, il a fait ça en un jour. Difficile de se représenter, quoi. Les gens, ils devaient être alignés comme ça. Il a fait la Mila comme ça, il avait des infirmiers qui passaient derrière et qui devaient faire les pansements, quoi. Mais lui, il pouvait pas faire 318 milotes en une journée, plus la sienne. Donc, il fait la Mila. Et il est chez Mamré. Et voilà. Et la paracha de Vayera, elle commence comme ça. Avram est là-bas, il est chez Mamré. Et Hachem vayera elav Hachem be'eloné Mamré. Hachem se montre à lui dans les chênaies de Mamré. Mamré, c'est le nom du bonhomme. Rashi dit, Vaïra Elav, Hachem se montre à lui, ça veut dire il se montre à lui, le vaquer est acholé. Hachem, il vient rendre visite aux malades. Avram est dans les 3 jours qui suivent la Mila, considéré un peu malade. Rachid cite qu'effectivement, il y a ce Rabbi Chama Bar Hanina qui dit Yom Shlishi le Milato Aya, Uva Kadosh Baruch Hu Veshaal Bishlomo. Donc on est au 3e jour de la Mila et Akadosh Baruch Hu vient prendre des nouvelles d'Avraham. Dans le Ravolbe, il explique. Pourquoi Rachid? Ou Rachid après qu'il est venu Bikur Cholim? Peut-être qu'il est venu parler avec lui sans. Pourquoi la mitzvah de Bikur Cholim? C'est vrai qu'il y a une mitzvah de Bikur Cholim, d'aller rendre visite aux malades. Mais où Rachid il a lu ça dans le verset, dans le texte? Alors le Ravolbe, il explique, il dit. Comme ce n'est pas marqué Vayomer Hachem, ça veut dire que Hachem, dans cette visite-là, il ne lui a confié, il ne lui a rien dit, il ne lui dit rien. Donc, si vous voulez, Avram est un prophète, quand Hachem vient, il lui parle, il lui donne une prophétie. Avram, les prophètes, ils reçoivent des prophéties, Hachem leur parle. de deux types. Ou la prophétie est quelque chose que le prophète doit aller dire. Je te dis, tu vas aller dire à celui-ci, celui-là ou cela, etc. Ou alors, c'est une information que le prophète reçoit, qu'il doit garder pour lui, qu'il n'a pas le droit de diffuser, mais qu'il est nécessaire qu'il ait cette information pour comprendre d'autres choses qui vont lui être dites par ailleurs. Donc, un prophète, c'est quelqu'un qui, par rapport à la parole, c'est ou bien il est obligé de parler ou il est interdit de parole. Le prophète n'est pas quelqu'un qui dit, tiens, il m'a dit ça, oui, c'est bien, je vais le dire. Non, je ne le dis pas. Non, il n'est pas libre du tout. Ou il dit ce qu'on lui dit, ou il se tait. Alors, comme il ne lui a rien dit, il n'a pas donné de prophétie, qu'est-ce qu'il est venu faire? L'accent dans le passage, il est marqué, il est mis sur Vayera et là. Il s'est montré à lui. C'est-à-dire, Abraham expérimente qu'on appelle un Gilui Shrina, un dévoilement de la présence divine dans le monde. C'est une expérience que Hachem permet à Abraham d'avoir. Et Rachid dit ça. Et il dit en même temps que c'est basé sur un chazal, que c'est immédiatement après la Mila. C'est-à-dire, la Mila a rendu Abraham capable de recevoir un dévoilement de la présence divine. Jusqu'alors, Hachem ne s'est jamais montré à Abraham. Quelque part, c'est comme de même, c'est la même chose que pour une parole. Une parole, elle est dite normalement à quelqu'un qui est capable de l'entendre. Donc il y a des paroles pour lesquelles il faut se qualifier. D'accord? Tout le monde n'est pas capable d'entendre n'importe quoi. Aujourd'hui, on dit n'importe quoi à n'importe qui. Une parole qui, parole sérieuse, elle doit être adressée à quelqu'un qui est susceptible, qu'on a peut-être éduqué, qu'on a préparé pour qu'il puisse recevoir la parole en question. Donc Abraham, il avait besoin d'un changement, un changement que lui a apporté la circoncision. C'est un autre bonhomme. Il a changé son corps. Ce changement-là, il fait partie des mitzvot. Ça veut dire, c'est dans le plan divin que les hommes fassent la Mila. Plus fort, ouais. Y a une marloquette entre les amis d'Abraham, les deux autres, ils lui disent de ne pas le faire. Mamré lui dit non, ça vaut la peine de le faire. On ne connaît pas l'argument de Mamré, mais lui pense que ça vaut la peine. Et on voit très bien qu'Abraham, il n'est pas allé après la majorité. Il en a consulté trois, il y en a deux qui disent de ne pas le faire, et il le fait quand même. Donc, quelque part, on ne sait pas très bien pourquoi il les a consultés, puisque de toute manière, il ne va pas faire ce que les trois ensemble vont lui dire. Ou alors, il faut penser que il a entendu dans les arguments de Mamré quelque chose qui lui a enlevé la crainte qu'il avait de cette éventuelle dissuasion, etc. Cette mitzvah, étant donné que c'est un changement sur le corps, peut-être elle est plus difficile à penser que, je sais pas, qu'une autre mitzvah qui n'existe, qui demande peut-être un effort, peut-être au moins aussi grand, je sais pas, mais qui n'est pas. Et puis en plus, il y a un problème, c'est que si on fait la Mila, ça veut dire que le corps tel qu'il est fabriqué par Hachem n'est pas parfait. D'accord? Que le corps ne sera parfait que quand l'homme aura fait cette mitzvah de Mila. On voit très bien, par exemple, quand les Bnei Israël, pour sortir d'Égypte, ils vont faire ce qu'on appelle un Korban Pessah. Et pour faire le Korban Pessah, pour avoir le droit de faire le Korban et de manger le Korban Pessah, il faut avoir fait la Mila de ses enfants et de ses serviteurs, de ses esclaves. Quelqu'un qui n'aurait pas fait la Mila ne pourrait pas manger du Korban Pessah. Donc, d'une certaine manière, la sortie d'Égypte, elle est conditionnée par la mitzvah de Mila. Vous vous souvenez, on a déjà dit que les Bnei Israël, à ce moment-là, ils n'ont pas de mitzvot, ils n'ont pas de mérite suffisant pour sortir d'Égypte, et Hachem va leur donner deux mitzvot qui vont leur donner, quand ils vont appliquer ces mitzvot, ça leur donnera un peu de zchouyot, un peu de mérite, ça va les qualifier pour sortir d'Égypte. Les deux mitzvot, c'est la Mila et le Korban Pessah. Ces deux mitzvot qui ont à voir avec le sang. Dans le Korban Pessah, il fallait mettre le sang du Korban Pessah sur les linteaux et poteaux. Donc il y avait la shrita à faire et un travail à faire avec le sang. Et ensuite, il y a le travail du sang humain, en fait, en l'occurrence, ici, une goutte de sang qu'on fait couler obligatoirement au moment de la Mila. Alors bon, on ne va pas parler de ça, on en a déjà parlé à Pessah. C'est ces deux mitzvot, oui. Non, Mamré, non, il ne l'a pas fait, mais lui, il n'éprouvait pas le besoin de le faire. Mais bon, après, de lui-même, il ne l'a pas fait, mais après, il va le faire. Après, les amis d'Abraham, ils vont faire la Mila aussi. Le Midrash, sur cette situation-là, il dit, Abraham Avinu Amar, Abraham Avinu, il a dit, Mipsari echeze eloka. À partir de mon corps, je vois Hachem. C'est-à-dire, puisque j'ai modifié mon corps, ça m'a rendu capable d'avoir cette vision de la Shrina. Sous-entendu, Avraham dit, Hachem ne se serait pas montré à moi si je ne l'avais pas fait. Ça veut dire ici que la vision en question, ce n'est pas seulement quelque chose qui concerne le spirituel, ça concerne le corps. Le corps lui-même doit être un corps qui est qualifié pour être le lieu dans lequel se trouve une neshama qui, elle, va pouvoir recevoir la visite d'Hachem. Cette Mila, c'est une alliance avec Hachem. Alliance avec Hachem, ça veut dire qu'on entre dans une relation presque d'intimité avec Hachem. C'est ça l'alliance. Le Gaon de Vilna, elle explique que les 613 mitzvot sont des principes généraux. Les détails de chaque mitzvah sont infinis, en nombre infini. La preuve, c'est que il y a des morceaux de Torah dans lesquels il n'y a aucune mitzvah. Aucune des 613 mitzvot. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi il faut étudier ces parchiot si elles ne contiennent pas de mitzvah. Pour les paragraphes qui ne contiennent pas de mitzvah, on devrait. Bon, il n'y a pas lieu de les étudier si on considère. D'accord, tout ça, c'est dans l'idée que la Torah, c'est un livre de mitzvot seulement. Et donc ici, on voit clairement que ce n'est pas vrai. Ça veut dire aussi, dit le Gaon, qu'il y a des détails des mitzvot qu'on déduit de ces paragraphes qui ne contiennent pas de mitzvah, mais quand on les étudie, on comprend la nécessité de certaines particularités de chaque mitzvah, d'une mitzvah. La paracha de Vayera, c'en est une en quelque sorte. En fait, la paracha de Vayera contient pas une. Il n'y a pas de mitzvah. La mitzvah de Mila, elle a été donnée dans Eretz Yisrael à Abraham. Mais malgré tout, cette paracha est un vrai Shulchan Aruch du Chesed. C'est-à-dire, c'est le livre de référence pour tout ce qui concerne le chesed, la générosité, l'ouverture, la bonté, etc. La paracha, elle commence par nous raconter la perfection, en quelque sorte, de la Hakmasat Orchim d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il est un maître, un grand maître, hein, il y a ici du monde. Abraham Avinu, c'est un maître dans la mitzvah de Hakmasat Orchim. Il est vieux à ce moment-là. Il est 3 jours après la Mila. Et il va courir pour chercher des. Pour fermer vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Il va aller chercher des gens pour les inviter. Des gens qui en fait, clairement n'ont pas besoin de lui. Et on nous apprend que, bien qu'Hachem soit en train de, en quelque sorte, de parler avec Hachem qui lui rend visite, là, il va s'interrompre dans sa conversation avec Hachem pour aller récupérer 3 Arabes là, qui passent pas loin de chez lui et les supplier de venir chez lui. Il leur dit non, rien du tout, je ne vais pas me fatiguer, je vais manger un petit morceau, là, un peu d'eau, rien du tout. Il leur prépare un festin. Il mobilise la cuisinière, enfin non, c'est sa femme. Il mobilise la femme aussi. Il surveille, il est là, vérifier qu'ils ont tout. Lui, il est debout, là, à l'affût. Peut-être qu'ils ont besoin de quelque chose, hein, un peu de vin, un peu d'eau, un peu de. C'est pas seulement un chesed à l'égard des invités. La Torah, elle nous raconte, vous connaissez l'histoire, la Torah raconte que les anges, puisqu'en fait ces invités-là sont des anges, on nous explique qu'en réalité, c'est comme si Hachem n'avait pas connu Avraham Avinu, il est insupportable, il a absolument besoin d'invités. Mais Hachem pense que voilà, il est fatigué maintenant, il faut pas qu'il y ait des gens à inviter. Donc il s'arrange avec la météo et il fait une météo à pas mettre un ange dehors. Il n'y a personne dedans, personne dehors. Et Abraham, il est sur le pas de la porte, là, de sa tente, et il se désole. Il n'y a pas d'invité, c'est encore pire que. Et du coup, Hachem est obligé de changer de programme, et il parachute. Mais Abraham n'a pas vu les parachutes, hein. Il a parachuté trois anges déguisés en arabe. De telle sorte qu'il puisse les faire venir chez lui. Et alors, ces anges-là posent une question. Il dit, elle est où ta femme Sarah? Alors il répond, elle est derrière, là, dans la tente d'à côté. Alors Rachid dit, évidemment, les anges savaient très bien où était Sarah, mais la question elle a été posée de telle sorte que Avraham réalise l'humilité de sa femme qui est discrètement à l'arrière là. Ça change rien que Avraham était quasiment centenaire. Et il est marié depuis plus de 70 ans. Il s'agit toujours de faire valoir les qualités de sa femme à un mari. Chose est vraie dans l'autre sens aussi, non? Donc on nous parle ici du chesed d'Hachem par rapport à Hachem fait du chesed à Sarah. Et puis après avoir annoncé à Sarah qu'elle allait avoir un enfant, et que Sarah, elle en rit, quoi, elle s'étonne, elle dit, bah, il n'y a aucune chance. Et elle dit, il n'y a aucune chance parce que mon mari est vieux. C'est vrai qu'elle est nettement plus jeune que lui, mais quand même. Alors Hachem, qui rapporte la conversation à Abraham, il fait un petit changement pour garantir l'harmonie dans le couple. Au lieu de dire que Sarah avait dit mon mari est vieux, Hachem dit que Sarah a dit je suis vieille. Donc on apprend de là, du comportement d'Hachem, qu'on peut s'éloigner un petit peu de la vérité pour le shalom. Quand Abraham est informé que dans les anges en question, il y en avait un qui était préposé à la destruction de Sodome et de Amora, et ces gens-là sont pourris jusqu'à l'os, quoi. Néanmoins, Avraham Avinu va négocier, il va essayer de les sauver. Il les connaît même pas. Néanmoins, il va discuter pied à pied, en quelque sorte, avec Hachem. Donc, si on étudie ce Shulchan Aruch là de de Chesed, on peut y trouver des choses, des leçons qu'on peut incorporer à la vie quotidienne, en fait, à notre vie aussi. Il n'y a presque jamais de situation où le problème du Chesed ne se pose pas. Et donc, bien que cette paracha ne contienne pas une seule des 613 mitzvot, néanmoins, on a beaucoup à gagner à étudier cette paracha parce que on peut y trouver des leçons utilisables dans la vie de chacun, en fait. On va avancer un petit peu.
Il y
Donc,
a
par
quelqu'un
rapport.
dans la salle d'attente. Il y a quelqu'un dans la salle d'attente.
Eh oui, c'est notre ami Deborah. Deborah Kahn. Voilà, ouais, elle est là. Merci.
Merci.
Dans la prière de Shabbat, Shacharit de Shabbat, dans les psukei de Zimra, spécifique qu'on ajoute parce que c'est Shabbat, il y a un chapitre où il y a 26 fois qu'il est Olam Chasdo. Hazal explique que les 26 occurrences ici correspondent aux 26 générations qui vont de Adam jusqu'au don de la Torah. On a 10 générations d'Adam à Noah, 10 de Noah à Abraham et 6 jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et alors, on dit que ces générations, chaque génération a des caractéristiques, spécificités en quelque sorte. Et des défauts aussi. Et pour chaque génération en particulier, on a dit qu'il le Olam Chasdo, c'est-à-dire le Chesed d'Hachem s'applique à chaque génération, c'est-à-dire à chaque particularité de chacune des générations. C'est un énorme Chesed, qui le Olam Chasdo. Et la question qui se pose, évidemment, c'est que pour les générations d'après, il n'y a pas qu'il est Olam Chasdo pour chaque génération. Alors, est-ce que ça veut dire que le Chesed d'Hachem pour les générations d'avant, le don de la Torah, était plus grand, le Chesed est plus grand que le Chesed d'Hachem pour les générations qui ont accepté à partir du moment où on a accepté la Torah? Ça paraît un peu difficile à accepter. En fait, Rabbi Yitzhak Kouttner explique les choses de la manière suivante. Il y a deux sortes de chesed. Il y a deux sortes de générosité. Deux sortes de bonté, en quelque sorte. Il y a un chesed qui est appelé chesed vitour. C'est-à-dire, c'est un chesed qui consiste à ne pas tenir compte de ce que la personne en question se conduit pas bien, on lui fait le chesed quand même, malgré le fait qu'elle ne le mérite pas. Et puis, il y a un chesed mishpat, un chesed qui est à la hauteur des efforts et de la conduite de la personne en question. On reçoit du Ressen en fonction de sa conduite. Mais là encore, on pourrait se dire, mais le Ressen qui est fait à quelqu'un qui ne le mérite pas est plus grand que le Ressen qui est fait à celui qui, en fait, l'a mérité. Alors on explique les choses d'une manière qui a ensuite été très très connue parce que l'explication en question, elle a été reprise dans le petit livre rouge du camarade Mao. La question, c'est qu'est-ce qui est mieux? Il y a un pauvre, il y a un riche, et le riche, tous les jours, il apporte un poisson au pauvre pour qu'il ait de quoi manger, lui et sa famille. Et puis il y a une autre situation d'un pauvre et d'un riche, et le riche, il apprend au pauvre à pêcher. Et du coup, maintenant, le pauvre, il sait pêcher, et donc il va aller pêcher, et il va ramener chez lui un poisson qu'il aura pêché chaque jour. Quel est le des deux riches, lequel a fait quelque chose de plus grand? Alors même Mao avait compris que d'apprendre à pêcher, c'est plus grand que d'apporter un poisson tous les jours. Pourquoi? Parce que ça libère complètement celui, le pauvre en question. Il n'est plus tous les jours en train de devoir dire merci et de sentir qu'on lui donne. Il l'a fait lui-même. Donc c'est un recette plus grand de donner la possibilité aux gens de gagner par eux-mêmes de quoi se nourrir, plutôt que de les nourrir à chaque fois. Et donc, il n'y a plus effectivement, après Matan Torah, il n'y a plus un poisson qui est donné à chaque génération, un recette qui est donné à chaque génération, mais maintenant, globalement, on a pris au Hachem a enseigné. En enseignant la Torah, il a enseigné aux Bnei Israël la façon de produire par eux-mêmes le salaire, la récompense, le poisson, si vous voulez, dans l'image, qu'ils vont recevoir à la fin des temps. On a une expression dans Chazal pour dire cette situation de celui il reçoit, alors c'est vrai qu'il reçoit, il reçoit du pain, tu lui donnes du pain, alors il a quoi manger. Mais ça s'appelle Naamad Kisufa. C'est le pain de la honte. Parce qu'en même temps qu'il reçoit à manger physiquement, mais en fait, ça lui fait honte à chaque fois de devoir recevoir, qu'il n'est pas capable lui-même de se débrouiller tout seul. Et par conséquent, ici, c'est la situation des Bnei Israël. La Torah, elle a été donnée aux Bnei Israël. Ça veut dire que ce qui s'est passé, c'est que les Avot, comme on l'a dit, les Avot, ils avaient compris la Torah par eux-mêmes. Parce que, puisque la Torah est le plan du monde, et que vous, comme moi, comme tout le monde, nous sommes ce monde qui a été créé par Hachem selon le plan qu'était la Torah. Donc la Torah est en nous. Bon, c'est quelque chose de plus profond peut-être que notre ADN, etc. Il y a en nous notre plan. Le plan est là. Comme le plan d'une maison est là dans la maison construite, il est là. On ne le voit plus comme tel. Mais il est là. Bien, la Torah que nous avons, qu'ils avaient trouvée, voilà, c'est eux, ils l'avaient remontée en quelque sorte. Mais, comme vous savez, le Klal Israël a été créé deux fois. Le clan d'Israël a été créé avec Abraham Avinu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on s'est retrouvé en Égypte. On s'est retrouvé esclave en Égypte. Rambam dit qu'on avait presque tout oublié en Égypte de l'enseignement d'Abraham Avinu. Les Bnei Israël sont considérés par les anges qui les voient au moment du partage de la mer. Les anges disent, mais ils sont idolâtres, comme les Égyptiens. Effectivement, les Bnei Israël, à part l'exception de la tribu de Lévi, sont idolâtres, tombés dans l'idolâtrie. Donc, c'est l'échec. Échec du plan d'Hachem, si on peut parler comme ça. Eh bien, il y a une nouvelle création du peuple d'Israël qui est Yetziat Mitzrayim. Nous sommes ce clan d'Israël qui est produit par la sortie d'Égypte. C'est une deuxième naissance du clan d'Israël, sous une autre forme. Abraham, il s'est coupé de l'idolâtrie et les Bnei Israël se sont coupés de quoi? C'est vrai, je vous ai dit, il y avait de l'idolâtrie, mais qu'est-ce qu'on célèbre à la sortie d'Égypte? C'est la sortie de l'esclavage. On ne célèbre pas la sortie d'une forme d'idolâtrie. Je vous rappelle juste que le soir du Seder, il y a deux récits. Il y a un récit Avadim Haïnou, le pharaon de Mitzrayim, qui raconte la sortie de l'esclavage. Et puis il y a un récit qui commence, Mitrila, Ovde Avodazara, Yuavotenu. Au départ, nos ancêtres étaient idolâtres. Donc le soir du Seder, on rappelle aussi bien que Pessah, ce soit Zecher Yetziat Mitzrayim et la Mibet Avadim, et pas Mibet Ovde Kochavim, Mibet Avadim, mais il y avait aussi l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est on peut dire. L'idolâtrie, c'est un peu une forme faible. Pardon, l'esclavage est une forme faible d'idolâtrie. Un esclavage, c'est
Ok.
que dans l'esclavage, vous avez un maître. C'est pas Hachem. Dès qu'on a un autre maître qu'Hachem, un maître qui peut tout sur vous, on est dans l'idolâtrie. Au moment de Pourim, vous vous souvenez? Au moment de Pourim, les Chachamim s'étaient demandé, est-ce qu'on va instaurer de chanter le Hallel à Pourim? Et ils ont dit, on ne peut pas. On ne peut pas dire Hallel à Pourim. Pourquoi? Parce que les premiers mots du Hallel, c'est quoi? Hallelu, Ovdei Hashem. Louez-le, serviteur d'Hashem. Et on dit, nous, on ne peut pas dire qu'on est vraiment des serviteurs d'Hachem. Akate Avdeach Hashverosh, nous sommes encore des sujets, des esclaves quasiment d'Achashverosh. On a un autre maître. Le fait d'avoir un maître, ça empêche de dire qu'on est vraiment Ovdei Hachem. Quelqu'un qui ne dépend pas, qui ne reconnaît pas sa dépendance entière d'Hachem, il ne peut pas dire qu'il est Oved Hachem. C'est très sévère en quelque sorte. Tout ce qui concerne Hachem, c'est absolu, c'est-à-dire on ne peut pas. Au temps du prophète Eliyahu, il a dit au Bnei Israël, mais jusqu'à quand est-ce que vous aurez un pied dans l'idolâtrie et un pied du côté de la Torah? Parce qu'ils pratiquaient la Torah, mais en même temps, ils pratiquaient aussi le culte du Baal. Ils étaient aussi idolâtres. Trouver des moyens de justifier, on fait les deux en même temps. Mais peut-être il y avait une hiérarchie. Il leur a dit, vous ne pouvez pas continuer, il faut choisir. Donc, en réalité, si quelqu'un craint Hachem, mais craint aussi son percepteur et celui-ci ou celui-là, il ne craint pas vraiment Hachem. Craindre Hachem, c'est ne craindre qu'Hachem. Dans le chesed, c'est la même chose. Il s'agit de faire les choses parce qu'Hachem les a prescrites. Oui, c'est Hachem qui fait le chesed à leur égard. Nous, notre question, c'est de savoir. Pourquoi il faisait peut-être un peu de chesed, mais pas suffisamment pour. Il ne méritait pas. Il y avait deux autres avérotes ou des choses, des manquements sur d'autres plans qui faisaient qu'ils étaient. Chaque génération était à sa manière non méritante. Et ce qu'ils ont reçu, ils ont manqué de rien. Hachem leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. Mais ce n'était pas justifié. C'est un chesed. Donc, par exemple, le Bikur Cholim dont on nous parle ici au début, d'aller voir le malade, d'aller rendre visite au malade, c'est un élément de quelque chose qui s'appelle Chesed en général. C'est un élément, une des conduites de Chesed à l'égard des gens. De même que d'aller consoler les endeuillés, de même de donner à manger à ceux qui n'ont pas à manger, etc. Tout ça, c'est des éléments constitutifs d'une démarche de recette. Rashi va expliquer que Vayita Echel, que Avram il a planté un Echel, c'est-à-dire ils ont une auberge. C'est ça la source de. On sait que voilà, Avram il a compris que il fallait s'occuper des gens et il faut être prêt à les recevoir. Après ça, on peut aussi comprendre ce que les Chachamim qui disent que quand Avram dit à Sarah, Louchi, Vassi, Ugot, il a dit à Sarah, prépare une pâte et fais des gâteaux. C'est une mitzvah qu'il lui demande de faire. Parce que, bien sûr, ça s'inscrit dans la démarche générale d'Avram. Avram veut leur donner, et donc il faut le préparer. Donc les préparations. Elles font aussi partie du chesed, bien sûr. L'alliance avec Hachem d'Abraham, c'est quelque chose qui va jouer un rôle absolument fondamentale, de même que la Mila d'Abraham, elle joue un rôle très important, puisque comme je vous ai dit, la Mila, c'est une des deux mitzvot qu'Hachem a donné au Bnei Israël pour qu'ils méritent de sortir d'Égypte. Eh bien, le chesed d'Abraham, de la même manière, l'alliance de chesed d'Abraham Avinu avec Hachem, c'est-à-dire le commencement des mitzvot, c'est une alliance d'Abraham. Et ça commence par Louchi, Vassi Ugot. Comme on dit, effectivement, il s'est dépêché, Abraham, il a couru amener, chercher un agneau, etc. Donc la Kavana ici, c'était de lier les alliances entre elles, le Dam Brit, le sang de l'alliance, et aussi le Brit de Chesed. Il y a une alliance entre Hachem et Abraham. Abraham fait du Chesed sur le modèle du Chesed d'Abraham, du Chesed d'Hachem. Hachem se dévoile à Abraham. Comment est-ce qu'il se dévoile? Dans le cadre du Chesed. Il lui fait du Chesed et Abraham copie. Qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il fait du Chesed immédiatement. Fait du chesed avec Arnas HaTorchim, et Hachem fait du chesed avec lui grâce au Bikur Cholim. C'est une alliance, chacun fait sa part de l'alliance, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une alliance qui est marquée dans la chair. Et puis une alliance qui est écrite dans le cœur. Le chesed, c'est écrit dans le cœur. Et on voit très bien que le 15 Nissan, quand il va s'agir de sortir d'Égypte, il y aura Kol Harel Lo Yechalbo. Il y aura celui qui n'a pas fait la Mila, il ne pourra pas manger du Korban Pessah. Et le Korban Pessah, on va le manger, vous mangez avec un kezaït de matzah, avec une petite quantité de matzah. Matzah, c'est la licha, c'est le fait de faire la pâte, comme Hachem a demandé à Sarah de le faire. Bon, c'est les matzot sont appelés dans la Torah souvent ougot. Donc, il y a des éléments d'Abraham. Je vous ai dit, le clan d'Israël est né deux fois, mais il y a dans la conduite d'Abraham des éléments qui vont être fondamentaux pour la sortie d'Égypte, pour la deuxième naissance du clan d'Israël. La naissance du clan d'Israël au moment de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire au temps de Moshe Rabbeinu. Dans cette paracha de Vayera, il y a un troisième personnage qui est aussi de la famille, qui est le frère de Sarah. Frère de Sarah, vous le connaissez, il s'appelle Lot. Il est donc à la fois le neveu d'Abraham et son beau-frère. Lot, il va être sauvé de la destruction de Sodome. Un des trois anges, et comme je vous l'ai dit, est là pour détruire Sodome. Et la question, c'est qu'est-ce qui va se passer avec Lot? Vous savez probablement la semaine dernière que Lot, il a suivi l'enseignement d'Abraham et à un moment donné, il a pensé qu'il pouvait faire encore mieux qu'Abraham. C'est tout à fait bien d'essayer de faire mieux. Hazal disent qu'Abraham, cette fameuse auberge qu'il a ouverte, en fait, elle était sur la route qui menait à Sdom. C'est-à-dire que les clients de l'auberge en question, c'était pas des gens très fréquentables, quoi. C'est des gens qui étaient en route pour aller faire du business avec Sdom, etc., ou des gens dans l'autre sens. C'était pas obligatoirement la crème de la crème. Mais bon, Abraham, il a le grand avantage, c'est que les gens étaient chez lui, chez Abraham. Donc, quand ils avaient mangé et qu'ils le remerciaient, il disait, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Hachem. Et du coup, ben, ils étaient peut-être un peu obligés de remercier Hachem parce que. Mais lui, c'est toujours très, très important de savoir, tu veux influencer les gens, mais c'est plus important. L'idéal, c'est qu'ils viennent chez toi plutôt que toi, tu vas chez eux. L'autre, il a dit, moi, je vais aller à Sdom. Alors, Sdom, pour nous, c'est la destruction, mais. Quand Lot a choisi Sdom, Sdom c'était vert, c'était magnifique, c'était des pâturages très très riches, etc. C'est ça qu'il a choisi. Il a choisi aussi, il s'est dit, moi je vais aller à Sdom et je vais les inciter à accepter les valeurs de d'Abraham, celles que moi j'ai acceptées aussi. Alors évidemment qu'il n'a pas été accueilli comme il le pensait, mais petit à petit, il est arrivé un jour, on l'a nommé juge à Sdom. Il a pensé, super, je suis juge à Sdom, je vais pouvoir juger selon les principes de la Torah. Mais les gens lui disent, mais tu rêves, on t'a fait juge pour te compromettre, tu vas être avec nous, tu vas. Maintenant, tu vas arrêter de nous casser les pieds avec tes valeurs, tu vas juger avec nous, tu vas condamner. À Sdom, la loi c'était la loi, qu'on n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit pour un étranger. On est riche, mais c'est vraiment, mec, Sdom, etc. C'est Sdom qu'on veut faire. On garde notre richesse pour nous. Et pour que les gens comprennent qu'on rigole pas, les gens, les étrangers qui venaient à Sdom, ils étaient systématiquement complètement dépouillés et ils étaient violés systématiquement. Et quand les anges sont arrivés chez Lot, immédiatement, les gens se sont rassemblés devant la maison de Lot. Il a dit, donne-nous les gens, tes invités. Alors vous pouvez vous demander peut-être d'où les gens savaient-ils, est-ce que dans les réseaux sociaux avaient déjà publié que il y avait des invités chez Lot. Comment ils le savaient? Ils le savaient par Madame Lot. Parce que Madame Lot, elle est allée chez tous les voisins, elle leur a dit, prêtez-moi du sel, on a des invités, prêtez-moi du sel, on va avoir des invités. Avec ça, tout le monde a su qu'il y avait des invités, ce qui à Sdom était évidemment. Et donc, c'est pour ça qu'elle a été changée en statue de sel. Parce que sur le prétexte, elle n'est pas allée dire, on a des invités. Elle a dit, prêtez-moi du sel, on va avoir des invités. Elle est allée raconter ça à tout le monde. Donc ils sont là et ils disent, donne-nous ces invités-là, qu'on les connaisse, ça veut dire on va les violer comme il se doit. Ils sont tous là, toute la populace est là. Et Lot, il essaie de parlementer avec eux, etc. Évidemment, ça marche pas. Et à un moment donné. Physiquement, ils vont prendre le pouvoir. Alors, du coup, les anges là interviennent en tant qu'anges. Et ils se barricadent et ils rendent les gens, la population complètement aveugle. Ils trouvent ils savent plus où est la porte, etc. Et puis, on va sauver Lot. Et on demande à Alors, qui tu as ici, tes enfants, des gendres, et puis une notion un peu particulière, il y a à la fois les gendres, et puis il y a aussi l'ocré benotav. C'est-à-dire, en fait, on apprend là que, comme ça que la Barbanelle, ben, il en a la situation, que il avait. Lot avait quatre filles, deux qui étaient mariées et deux qui étaient fiancées. Alors, celles qui étaient mariées, leur mari et elles ont suivi, ont dit que pas du tout, c'est jamais, Sodome ne va pas être détruite, c'est pas vrai, etc. Donc, ils se sont moqués du beau-père, père de beau-père. Et puis, après, les anges disent à Lot, écoute, dépêche-toi, toi, prends ta femme et tes deux filles, là, qui sont seulement fiancées, et on va vous sortir de Sodome, parce que Hachem va détruire la ville. Et comme il hésitait, les anges lui ont pris la main. Ils ont pris la main de sa femme aussi et des deux filles pour les sortir de là. Et ils les ont tirés. Et ils ont dit, il faut fuir pour sauver la vie, quoi. Et il leur a dit, ne regardez pas en arrière, ne vous arrêtez pas nulle part. Courait jusque la montagne. Et donc, en fait, on ne comprend pas très bien l'attitude de Lot. Encore, comme vous savez, Lot, quand il a essayé de dissuader les gens de violer ses invités, il leur a dit, j'ai des filles, voilà, prenez les filles, faites-leur ce que vous voulez. On ne voit pas très bien ces filles, là. Mais touchez pas à mes invités, quoi. Alors, pour expliquer cette attitude étrange de Lot, attitude immorale complètement, la Babanel, il propose une explication originale, qui est en fait construite sur deux points. Premièrement, dans le texte, c'est marqué l'ocré benotav, ceux qui prennent les filles de Lot. Pourquoi c'est pas marqué qu'elles étaient fiancées? L'ocré benotav. Et deuxièmement, le Abravanel dit que donc, Lot avait donc quatre filles, deux mariées et deux fiancées, comme on a vu. Et donc, ça va être le contexte qui va permettre à Babanel de donner son explication qui est originale, en fait. C'est clair que Lot est un personnage très étrange. Je vous ai dit que Sodome était magnifique, très riche, etc. Pour que le monde sache bien clairement que c'était dangereux d'aller à Sodome, alors il y avait la pratique dont je vous ai parlé, dépouillement et viol, systématiquement. Abravanel, il montre que cette pratique absolument abominable, c'était vraiment un mécanisme légal pour décourager toutes les personnes qui voudraient s'installer à Sodome. Tu ne vas pas venir parce que nous, on est riches et profiter de la richesse. Pas du tout. Seulement, c'est tellement contraire à tous les principes fondamentaux que voilà, ça ne va pas être toléré. On ne peut pas tolérer une chose pareille, même si ça apparaît comme étant légal, quoi. En fait, cette histoire de violer les gens, la Bavanel la compare avec une situation qui s'est produite beaucoup plus tard avec la tribu de Binyamin. Dans la tribu de Binyamin, il y a aussi une histoire comme celle-là, avec une concubine de quelqu'un qui était venu là, qui elle aussi a été violée, etc. Et vous vous souvenez peut-être, les autres tribus ont mis la tribu de Binyamin en quarantaine, littéralement. On a décidé que personne ne ferait de mariage avec les enfants de la tribu de Binyamin. Pendant un certain temps, ça a duré comme ça. Et comme ils avaient décidé qu'ils ne feraient pas de mariage et que ben voilà, ils étaient coincés. Au bout d'un moment, ça allait faire disparaître complètement une tribu. Ça, on ne voulait pas. La tribu disparaisse complètement. Mais d'un autre côté, ils ne pouvaient pas dire on annule le décret qu'on avait pris. Alors, on a dit aux gens, on ne va pas officiellement permettre, mais les filles de la tribu de Binyamin, on va leur dire de sortir, d'aller. Et vous avez qu'à prendre ces filles. Vous allez les prendre et les épouser, sans qu'on ait annoncé qu'on a annulé le. Trouver un truc pour récupérer la tribu de Binyamin. On voit qu'il y avait eu aussi un viol collectif. Et ce viol collectif-là, il n'a pas été sanctionné de la même manière que Sdom. À Sdom, on a détruit la ville, et là, on n'a pas détruit justement la tribu de Binyamin. Là-bas, tous les gens de l'endroit de la tribu de Binyamin où était arrivé disons, le visiteur avec sa concubine, etc., les gens se sont rassemblés et bon, je ne vais pas maintenant entrer dans les détails. Et lui, il a laissé sa concubine devant la maison, en quelque sorte. Et les gens de Binyamin, ils l'ont violée jusqu'à la mort. Ils l'ont laissée pour morte. Ensuite, les gens lui a découpé le corps de la femme, l'a envoyé en morceaux dans chaque tribu, etc. Ça fait un scandale. On a mis la tribu de Binyamin en quarantaine. Bon, c'est juste qu'il y avait un viol collectif comme le viol collectif perpétré, enfin, voulu par les gens de Sdom, qui était pratiqué systématiquement. Et là, on n'a pas été aussi dur pour la tribu de Binyamin que pour les gens de Sdom. Parce que de Sdom, on a pensé que c'était plutôt une pulsion et ce n'était pas justement une loi systématique. Pardon? À Binyamin, on n'a pas fait ça. En vérité, les Malachim, ils étaient là, à Sdom. Ils se sont présentés comme des touristes, en fait, pour voir exactement comment les gens de Sdom se comportaient et comment Lot allait se débrouiller avec ça. Qu'est-ce qu'il allait faire, effectivement? Donc, Lot avait pensé que, effectivement, son statut de juge dans la ville va lui permettre de garantir la sécurité des touristes en question. Au départ, quand l'hôte leur a demandé de venir chez lui, ils ont dit non, non, on va rester dans la rue, on ne veut pas entrer chez toi. Mais quand, effectivement, parce qu'ils voulaient tester les habitants, ils voulaient savoir qu'est-ce que les habitants de Sodome allaient faire. Mais quand les autres ont vu qu'ils étaient là, je vous rappelle l'histoire de Madame Lot avec son sel, là. Ils n'ont pas attendu quoi que ce soit, mais immédiatement, ils ont encerclé la maison et qu'on nous livre immédiatement ces gens-là. Et donc, Lot a une drôle de démarche, il offre ses filles. C'est-à-dire, prenez mes filles à la place des visiteurs. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça? Les gens de la ville n'étaient pas intéressés du tout par ces filles. Ce n'est pas une pulsion sexuelle qu'ils avaient. C'était une loi qu'ils voulaient imposer. On viole les gens qui viennent chez nous pour profiter de nous. Les filles, elles ne sont pas dans cette situation-là. Et deuxièmement, a priori, un mari, un père, il fait tout ce qu'il peut pour protéger la vie et le statut de ses enfants, même au prix de sa propre vie. Et comment ça se fait que l'autre, il l'expose comme ça à sa famille, quoi? En fait, ce que l'autre voulait dire, dit Ababanel, il voulait dire, c'est moi qui suis en cause, c'est pas eux. C'est moi qui les ai fait venir, c'est pas eux. Donc, les filles, elles le représentaient pour dire, non, c'est avec moi que vous avez affaire et pas avec eux. Il offre ses filles qui sont fiancées, engagées, mais pas mariées. Il a aussi pensé que les futurs maris de ses filles allaient les protéger aussi. C'est des gens de Sodome. Bon. Ce mot dont je vous ai parlé, ce mot différence entre les gendres et ceux qui prennent les filles, qui fait que c'est un midrash qui médaillait ici le mot locré benotav. Et l'ocré, ceux qui prennent, et pas le couché, donc, que l'on prie. Donc là, c'est sur ce diouk, en fait, du mot, qui est basé cette idée qu'éventuellement, il y en a qui sont mariés et d'autres qui sont seulement fiancés. Comme les fiancés étaient des gens bien vus à Sodome, ils pensaient que, ouais, il va rien leur arriver, personne ne va faire quoi que ce soit à ses filles. Ça, c'est ce que dit Abamanel. Maintenant, lui aussi, l'autre qui était un juge, il pensait aussi que, voilà, si des gens cherchent refuge, alors c'est bien. Bon. Mais d'un autre côté, comme c'est lui qui les a invités, donc ce n'est pas eux qui sont. On n'a pas besoin de leur appliquer cette loi idiote, mais difficile. C'est pas eux qui sont venus profiter de ce dôme. Ils étaient là, moi je les ai fait entrer. Mais les gens n'ont pas du tout accepté l'explication de Lot en disant que tu n'as aucun droit, tu vas pas, nous, toi, tu t'imagines que tu es juge et que tu vas nous changer la loi. Donc l'idée continue, qu'est-ce qui se passe? Les anges disent à Lot, ben, dépêche-toi, la ville elle va être détruite. Alors maintenant la question c'est, Lot, est-ce qu'il va être tué? S'il reste là, il va être tué avec les gens de la ville? C'est comme ça, une collectivité se disqualifie. Il y a des gens qui, eux, personnellement, sont peut-être pas disqualifiés, mais qui méritent pas suffisamment pour avoir un traitement à part et qui vont être sanctionnés en même temps que toute la ville. Donc, Lot, il va mourir aussi avec tout le monde s'il reste là. Et lui, il n'arrive pas à bouger. Et les malachim sont obligés de le prendre par la main, de les prendre et sortir, en fait, par force. Alors, Abravanel, il veut encore expliquer. Pourquoi est-ce qu'ils ont reçu cet ordre de ne pas regarder en arrière? Alors, Abravanel commence par amener les opinions de Rashi, de Ramban et Pirkei d'Rabbi Eliezer, qui tous donnent la même explication à peu près, c'est-à-dire en fait que Lot, effectivement, il avait beaucoup de biens. Il était riche. Et les Malachim lui ont dit, écoute, on va te sauver toi, mais tu pourras rien prendre de toutes tes possessions. Tu vas tout perdre. Mais bon, tu sauves ta vie. Donc il avait du mal et on ne voulait pas, on voulait, il fallait que il coupe complètement avec son passé. Oublie ton passé, coupe ton passé, c'est une espèce de lech lecha qui est dit à Lot, comme l'a été dit à Abraham Avinu, coupe avec le passé, coupe avec ton passé, c'est tout. On te sauve, c'est tout. Bon, ça c'est ce que disent Rashi, Ramban, Pirkei de Rabbi Eliezer. Mais Abravanel, il dit un petit peu différemment. Il dit que quand Lot a reçu l'ordre de ne pas regarder en arrière, c'est que on voulait lui dire de ne pas avoir, de ne plus avoir aucun sentiment pour les filles qui étaient restées là-bas avec leurs maris. Ni évidemment, bon, c'est bien aussi. Regarde la destruction de, regardez, voir la destruction de Sodome. Ça doit pas être, ça ne te concerne plus. Toi, tu appartiens, on t'a sorti de là-bas, tu t'occupes plus du tout de. Bien qu'on aurait pu dire que dans la Torah, c'est marqué plusieurs fois que d'assister à la sanction, c'est une façon de garantir que on va plus refaire la faute. D'accord? Tu vas voir les condamnés, on va. Bon, c'est toujours la grande idée de ce qu'il faut exécuter les gens en public pour faire peur à tout le monde, pour que les gens aient peur. Dans la Torah, c'est souvent présenté comme ça. Mais en tout cas, les malachim, ils viennent ici, ils lui disent non. L'important, c'est que tu coupes même, pas seulement T'es bien, mais t'as rien à voir avec ton passé. La totalité, toute ta famille qui est restée là-bas, t'as plus rien à voir avec eux. Ça, c'était le tchat d'Abba Banel, qui est un peu différent donc des autres. Les autres, il a du mal à lâcher toutes ses possessions. Mais là, c'est pas lâcher les possessions, c'est une coupure radicale avec toute ta vie passée. Et effectivement, ce qui va se passer avec Lot, les filles aussi, elles vont penser comme ça. Parce que quand elles vont penser, voilà, ben, on est tout seul. Le seul survivant, elles pensaient, c'est comme le Maboul. On est les seuls survivants. Et on pensait que le monde entier était détruit. C'est leur monde, mais c'est le monde entier. Et du coup, elles ont décidé qu'il fallait assurer la pérennité de l'espèce, quoi. Ce qui en soi est très surprenant que de jeunes femmes pensent que leur souci, c'est assurer la pérennité de l'espèce, quoi. C'est pas. Et surtout qu'elles pensent, bon, ben, notre père, peut-être, il va pas être d'accord. Bon, ben on va l'enivrer et tout va se passer sans qu'il s'en rende vraiment compte. Bon, après, là-dessus, il va y avoir des commentaires, mais on va s'arrêter là aujourd'hui. Je crois que c'est l'heure de s'arrêter. Voilà, on s'arrête là. Lui, il savait que. Oui. Il s'est prosterné devant eux, etc. Alors, certains disent que lui, il savait. C'est des anges. Mais d'autres disent que non. Ça avait marché, il ne savait pas non plus. Il y a deux lectures. Oui, mais enfin, il a quand même compris que c'était au moins des gens très importants et qu'il fallait les traiter comme ça. S'il a compris que c'était des anges, je ne comprends pas très bien quel était le problème. Si tu penses que c'est des anges, ben, il va rien leur arriver, ils vont se débrouiller. Donc, malgré tout, on voit très bien qu'il va négocier, comme si on pouvait faire du mal aux anges. Je veux dire, et donc ça se comprend mieux si on considère qu'il ne savait pas. Il a vu que c'est des gens importants, mais pas les anges. Il faut les défendre, quoi. En fait, lui, il voulait les protéger, mais il n'était pas capable de les protéger parce que les autres allaient défoncer la porte. Vous avez toute la ville qui est derrière, ils vont défoncer la porte et ils vont. Et donc là, du coup, les anges sont intervenus parce que il n'y a pas d'autre solution, il faut régler le problème. Pardon, les filles mariées. Les filles qui sont sorties avec lui, il les a prises avec lui. Ah, non, ils ne les ont pas touchés, ça ne les intéressait pas. C'était pas des pulsions sexuelles. C'était une loi qu'ils appliquaient à l'étranger. Ce ne sont pas des étrangères. Mais du coup, c'est incompréhensible. Alors, c'est pour ça que la Babanel, il dit non, non, ce n'est pas du tout. Il les a sortis, c'était ses représentants pour leur dire, voyez, c'est le problème, c'est voilà, c'est mes représentants. Moi, je ne sors pas, mais. En fait, pourquoi il a exposé ses femmes, je ne sais pas. Il n'avait qu'à sortir lui-même. Je veux dire, pourquoi il fait. En quoi. La Bavanel, c'est intéressant ce qu'il dit, mais on ne comprend pas très bien pourquoi il envoie les filles le représenter. En quoi est-ce qu'elles sont représentantes? Voilà.
Le fait de ce qu'elle vient de faire sur la